Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un récit biblique que beaucoup connaissent, certainement tous. Un récit qu'on a entendu déjà à l'école du dimanche. Mais il y a un risque lorsqu'on connaît bien un récit, c'est de passer à côté de ce qu'il pourrait nous dire aujourd'hui. Et avant de lire le récit, j'aimerais vous poser justement cette question par rapport à la peur. Est-ce qu'il y a des peurs qui vous paralysent parfois? Différentes peurs, je ne vous demande pas de répondre, mais il peut y avoir par exemple la peur qu'on ressent lorsqu'on a tout à coup un diagnostic médical qui nous coupe le souffle. Ou peut-être une insécurité financière. Comment est-ce que je vais arriver à la fin du mois, ou bien si les choses évoluent comme ça, qu'est-ce que ça va donner? La peur d'un échec dans nos relations, on a prié pour nos familles, là c'est des relations qui sont très, très proches, qui peuvent être magnifiques ou très lourdes à porter. Peur de l'échec. La solitude, ça peut être aussi une peur qui nous paralyse. Ou un sentiment de culpabilité, quelque chose du passé, un regret. Il peut y avoir d'autres choses encore. Je pense à ne pas pouvoir lire sa Bible dans sa chambre. Et il y a bien d'autres choses qui peuvent nous bloquer. On a l'impression que c'est comme des géants qui sont devant nous. Comment l'affronter? Comment y faire face? C'est pas seulement une personne, mais c'est un problème, une situation qui est tellement grande. On ne voit pas comment la surmonter. Et à quoi est-ce qu'on regarde dans cette situation? À la taille du problème ou à la grandeur de Dieu? Dieu fidèle, Dieu puissant. On a rappelé ça dans les chants que nous avons chantés. Si je devais être courageux cette semaine, pour les prochains jours qui sont devant moi, dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de courage? Quels sont mes défis? On va garder ces questions en tête et peut-être essayer d'y trouver des réponses concrètes ce matin pour notre vie. Le récit que je vais lire, la peur paralyse, la confiance en Dieu libère le courage, c'est dans 1 Samuel 17, et en parlant de ces problèmes gigantesques, peut-être que vous avez deviné de qui on va parler. David, qui se trouve devant Goliath. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soco en Juda et dressèrent leur camp entre Soco et Azeka à Éphès-Damin. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Lorsque Barbara attendait notre troisième enfant, l'aîné Gianluca avait 4 ans, 4 ans et demi, et on lui a demandé si tu as un petit frère, comment est-ce que tu veux l'appeler? Goliath! Pour lui, c'était le héros, grand, fort. Mais voilà, on l'a appelé Goliath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une soixantaine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en baudouillère sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta: Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Éliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David: Prends cette mesure de grain rôti et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Fromage, c'est pour les chefs. Tu verras si tes frères se portent bien et tu me rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. Le lendemain, de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il m'a demandé de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. L'avez-vous vu s'avancer contre nous? dit l'un d'eux. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui: Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné, Éliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit: Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai le combattre. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina. Et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Absoche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Le récit est un peu long, mais pour moi, ça vaut la peine de relire ces histoires qu'on connaît depuis très longtemps. Et en lisant, il y a toujours un petit détail qui me touche. Et ça fait du bien. La peur paralysante de Saül et d'Israël. L'histoire commence justement avec ce champ de bataille. D'un côté, les Philistins, de l'autre, Israël, et entre deux, un terrain plat. Et chaque jour, depuis 40 jours, un homme immense, Goliath, qui sort du rang et qui provoque Israël. Et l'effet est immédiat. Israël, Saül, toute l'armée, ils sont absolument terrifiés. La Bible nous dit, quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Démoralisés. Cette parole, ça m'a parlé. Parce que j'ai jamais vu un Goliath de 3 mètres, mais j'ai déjà été démoralisé. Et avoir peur, craindre quelque chose. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent, terrorisés. Et on comprend facilement pourquoi. Goliath était vraiment impressionnant par sa taille, son armure, une armure bien meilleure que celle que les soldats avaient à disposition. Et leur courage s'effondre. Une peur paralysante. Parfois, nous pouvons nous aussi être comme tétanisés par une situation compliquée qui nous dépasse. Pour nous, comme un géant. Saül et son armée, c'était pas des débutants. Ils avaient déjà combattu bien des batailles, mais là, depuis 40 jours, rien ne bouge. Chaque matin, Goliath leur rappelle qu'il est le plus grand, qu'il est le plus fort. Il revient chaque jour. Peut-être qu'on connaît ça aussi, quelque chose qui revient chaque jour. On n'arrive pas à la vaincre, ça revient, ça nous impressionne, on se sent petit, on ne sait plus comment agir. Nos Goliaths ne mesurent pas forcément 3 mètres. Parfois, peut-être qu'on a l'impression qu'ils mesurent 3 000 mètres. Ils peuvent être intimidants. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être un diagnostic médical qui change tout. On se lève le matin et la première chose à laquelle on pense, c'est ça. Ça peut être une insécurité financière, les factures qui s'accumulent, la peur de ne pas réussir. Et si les prix augmentent? J'entendais hier, par hasard, à la plage, en passant, deux dames qui parlaient ensemble et une qui disait, ah, ils ont augmenté le loyer de 500 francs. Je dis, oh là là, si ça m'arrivait, ce serait pas facile. Ou peut-être un échec relationnel, une amitié brisée, un mariage, une crise, un conflit familial. Un géant. Il y a aussi la solitude, surtout quand on a perdu son conjoint ou qu'on est seul depuis longtemps. La culpabilité, des reproches que nous nous faisons, des regrets, ah, des graves erreurs que j'ai faites dans ma vie. Comme l'armée d'Israël, on fixe nos yeux sur ces géants. On voit plus que ça. Ils prennent toute la place et Dieu. On sait que Dieu est grand. On le chante le dimanche, mais dans ces situations, pendant la semaine, c'est comme s'il était tout petit. La peur, elle nous fait oublier les victoires du passé. La peur efface le souvenir de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, ce texte nous rappelle une vérité importante que j'ai écrit ici. Choisir de regarder à Dieu plutôt qu'à notre Goliath. Et ça, c'est le courage. C'est un choix. Choisir de regarder à Dieu. C'est une décision que je prends dans mon cœur. Le regard de la foi de David. Ce qui nous frappe dans cette histoire, c'est que tout le monde regarde Goliath, sauf David. Les soldats voient un géant. David voit Dieu derrière cette situation. Au nom de l'Éternel, je viens à ta rencontre. Les soldats parlent de la force de Goliath. David parle de la fidélité de Dieu. Et quand il entend Goliath parler, il dit pas « Ouh là là, il est énorme !» mais plutôt « Ce gars, il a osé insulter notre Dieu. Qui donc est cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» Ce regard-là, ce regard différent, David, il l'a appris. C'est pas quelque chose qui est naturel, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il a appris. J'ai mis cette image de David assis avec ses moutons, avec sa harpe. Qu'est-ce qu'il faisait dans les champs? Je crois qu'il y avait des moments de méditation où il priait Dieu, il l'adorait, il composait des psaumes et il soignait sa relation avec Dieu. C'est là que David s'est préparé. J'ai parlé la dernière fois de Dieu qui regarde au cœur. Et ici, David a préparé son cœur dans les pâturages. Il n'était pas sous les projecteurs, mais c'était dans la solitude. Et lorsqu'il y a eu des situations compliquées avec ses moutons, avec des animaux sauvages, eh bien, il a pu faire des expériences. Oh, Dieu est là, c'est possible. Et si Dieu a agi, était présent dans ces situations, eh bien, il sera présent aussi dans d'autres situations. Il avait écrit ces choses dans ses psaumes. Il les avait chantées, enfin, j'imagine un petit peu ça. Et ça lui revient lorsqu'il se trouve devant ce géant. Il a préparé son cœur. Voilà, ces petites victoires cachées lui donnent la force pour affronter le géant. Dans notre quotidien, ça ressemble à quoi? Ça pourrait être un choix que je fais de parler avec Dieu. Je dis exprès, j'évite de dire prier. Parce que quand on dit prier, on a tout de suite notre image. Ah oui, prier. Amen. Voilà, j'ai prié. Non, parler avec Dieu. Choisir d'avoir un dialogue avec Dieu. Choisir de pardonner à quelqu'un qui nous a offensé, qui nous a fait du mal et qui a mal agi envers nous. Choisir de continuer à servir fidèlement la tâche qui m'a été confiée. Peut-être une chose petite, sans importance, ou peut-être une chose où je me sens dépassé, pas à la hauteur, mais rester fidèle dans ce qui est ma tâche. Rester intègre. Voilà, ce sont des choix qui forme en nous ce regard différent, d'avoir un regard différent, ce regard de David. La foi, c'est pas fermer les yeux sur les difficultés. Non, David, il le voit, le Philistin. Mais il reconnaît et il voit qu'il y a un Dieu qui est plus grand derrière. Plus je regarde à Dieu, plus je vois que ma force, en fait, elle n'est pas dans mes moyens, elle n'est pas dans ma santé, elle n'est pas dans mon compte en banque, elle n'est pas dans mes capacités, mais dans la puissance de Dieu. David, il va pas vers Saül en pensant, ah, moi j'ai une arme secrète ici qui va le bousiller. Non, et je viens dans le nom de l'Éternel. Oui, mais moi, j'ai pas la foi de David. Et apprenons à parler à Dieu de nos Goliaths. C'est une bonne habitude, pouvoir nommer ces choses et les dire à Dieu. Et me rappeler peut-être aussi une situation du passé. On a un vieux cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. » Comptez les bienfaits de Dieu. Me rappeler d'une situation ou peut-être simplement lire un psaume. Moi, je suis pas doué pour écrire. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a ChatGPT qui nous aide un peu. Mais on a des psaumes qui sont magnifiques. Ils n'ont pas été écrits par une machine, mais ils ont été écrits par des personnes qui ont vraiment vécu des situations peut-être semblables aux miennes et qui ont connu ce, qui ont une relation personnelle avec Dieu. Alors là, ce sont des petits pas qu'on peut faire pour progresser et nous préparer. Et le courage nourri par la foi dans le Dieu vivant. La foi, j'entends par là la confiance en Dieu. Mon courage, il est nourri par cette confiance que j'ai en Dieu. Vous voyez cette image tirée d'un jeu d'échecs? Il y a le roi et il y a un pion. Le pion, c'est pas la pièce la plus forte, mais parfois le pion peut mettre le roi en échec. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Vous voyez qu'il y a un roi qui est à terre, il y a un pion qui le pousse, mais il y a une main qui tient le pion. C'est quoi cette main dans ma vie? Plus je regarde à Dieu, plus je vois sa puissance, sa force. Et ce qui est incroyable avec David, ce qui est fantastique, c'est qu'il agit. C'est pas juste une théorie, mais ce qu'il sait de Dieu le pousse à aller de l'avant. Je marche contre toi. Je vais affronter ce géant. Il prend sa fronde, il lance la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, affronter le géant? Peut-être, envoyer un WhatsApp, comme on a entendu dans la prière de tout à l'heure. Peut-être prendre le téléphone, rencontrer quelqu'un. C'est des choses qui nous font peur. Peut-être affirmer Dieu est le vainqueur dans ma vie. Se le rappeler à soi-même, le dire à haute voix. Et ça change tout. Ce courage ne dépend pas de notre âge. On se rappelle que Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé. Et Anne, la prophétesse dans le temple, elle n'était pas toute jeune. Et elle servait Dieu fidèlement. Elle était veuve depuis de nombreuses années. Et voilà que le Seigneur s'est servi de ces personnes. Le courage se manifeste justement dans ces petites choses. Commencez par des petits pas. Regardez à Dieu avant de regarder au problème. Un premier pas qu'on peut faire. Choisir de regarder à Dieu. Ça m'arrive de faire quelque chose que je vous conseille pas de faire, et de scroller sur Instagram, et puis il y a des vidéos qui viennent, des trucs, et souvent c'est des choses qui sont pas forcément encourageantes. Tu parles des problèmes ici et là, de politique, etc. Et puis toujours à nouveau, je tombe sur une vidéo d'un prédicateur anglais que j'écoute volontiers parce qu'il parle d'une manière très claire, et puis comme ça m'aide à apprendre l'anglais. Et ce que j'ai remarqué, chaque fois que je tombe sur une de ces vidéos, ça me fait du bien. Parce qu'en fait, il parle pas de politique, de situation financière, de guerre ou je sais pas. Il parle de Dieu, de ce qu'il vit avec Dieu. C'est souvent des choses tellement simples, mais ça fait du bien. Et regarder à Dieu avant de regarder au problème. Ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas, mais lorsqu'on regarde à Dieu, ça change quelque chose dans notre cœur. Une deuxième chose, me rappeler comment Dieu m'a déjà secouru dans le passé. C'est bien d'écrire les réponses de Dieu à nos prières ou des expériences particulières qu'on a fait avec le Seigneur, parce qu'on les oublie facilement. Mais lorsqu'on les écrit, on peut retourner. On a un cahier avec Barbara et quelques amis où on écrit des réponses de Dieu à nos prières. Et je dois dire que ça fait quoi maintenant, 3 ans peut-être qu'on a commencé. Et quand on revient en arrière et puis qu'on regarde, ah mais dis donc, c'est vrai, Dieu est fidèle, il agit, c'est encourageant. Oser un geste de foi qui montre que je m'appuie sur Dieu. Comme David qui va à la rencontre de ce géant. Oser affronter ce géant. Parce que c'est pas vrai qu'il est fort, c'est pas vrai qu'il est plus fort que Dieu. Et moi, petit pion dans la main de Dieu, je suis en sécurité. Je vous invite à identifier votre Goliath ce matin. Qui est mon Goliath? Certainement qu'il n'a pas une armure en bronze, une lance géante, mais il est bien là. Il m'impressionne, m'empêche d'avancer. Ça peut être lié à des relations, à la santé, à nos finances. Un sentiment de solitude, un poids de culpabilité. Et commencez par ces petits pas. Les mettre en pratique dans cette situation concrète. Je vous invite à prendre un petit moment comme ça de silence devant Dieu et vraiment regarder à lui, rappeler toutes les fois qu'il m'a déjà secouru, et puis intérieurement prendre cette décision d'affronter ce géant. Certainement pas avec une fronde et 5 pierres, mais le Seigneur nous donnera aussi la sagesse pour comprendre comment faire face à ce géant-là. Seigneur, nous avons identifié ce géant dans notre vie, ce qui nous paralyse, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, ce qui nous fait peur. Et maintenant, ce géant, nous voulons le placer dans tes mains. Seigneur, nous voulons te le remettre, le déposer là. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous rappeler que tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Et comme David, nous voulons aller de l'avant au nom de l'Éternel. Amen.